chercher dans la vie, c'est la connaissance, la compréhension du monde qui nous entoure, de la nature, et plus précisément en ce qui me concerne, la compréhension de l'univers.
Et ça date de quand ?
Ça date de mon enfance, à vrai dire, disons de mon adolescence, où j'avais la chance d'avoir un oncle qui m'a beaucoup ouvert aux questions scientifiques, qui s'y intéressait beaucoup lui-même, qui s'y connaissait pas mal, et qui m'a donné ce virus, et qui ne m'a jamais quitté depuis. Et puis ensuite, j'ai découvert l'astrophysique et la cosmologie à l'université, et là je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Jean-Christophe Hamilton, directeur de recherche CNRS au laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université de Paris. Jean-Christophe Hamilton est intervenu dans le cadre des conférences de la Société d'Astronomie de Nantes sur le thème « Exploration de l'univers primordial avec Kubik ». Interview enregistrée avant les périodes de confinement.
Vos études ont été préméditées ou c'est un peu le hasard ?
Bon, disons que c'est... Quand j'ai commencé mes études à l'université, je voulais faire soit des maths, soit de la physique. C'était pas bien clair dans mon esprit, parce qu'à la sortie du lycée, on a une vision qui est quand même assez partielle de tout ça. Donc, mon projet s'est précisé au cours des premières, deuxième années de fac, où j'ai eu la chance de faire de l'astrophysique, de la physique quantique. Tout ça, ça m'a beaucoup attiré. Et à ce moment-là, je me suis dit que ce que je voulais faire, c'était sans aucun doute de la physique fondamentale, et plus précisément de la cosmologie ou de la physique des particules. Alors ensuite, je me suis dirigé dans cette direction. J'ai fait ce qui s'appelle maintenant un M2 de physique des particules et de cosmologie.
Master.
Ah, Master, voilà.
Une maîtrise à l'époque.
C'était un DEA. DEA à l'époque, voilà, c'est ça. Et ensuite, j'ai fait une thèse en cosmologie. J'ai adoré ça. Puis j'ai continué. Avec la cosmologie, j'ai fait un petit peu de physique des rayons cosmiques pendant quelques années, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé. Et puis, je suis revenu quand même à la cosmologie quelques années plus tard, en 2006-2007. Et je n'ai pas quitté la cosmologie depuis. Et j'ai pas l'intention de la quitter.
Et elle non plus.
Et ça, c'est à elle qu'il faudrait demander.
J'ai pas le réseau pour ça.
Le plus intéressant, en fait, c'est que l'univers a une histoire. C'est qu'il n'a pas été toujours comme il est. Et c'est ce qu'on a compris au cours du XXe siècle. Et on a compris qu'en fait, il s'est formé il y a environ 13,6 milliards d'années. Donc ça fait un moment.
J'avais 7. Forme,
13,7, oui, alors ça dépend un peu des mesures. Il y a une incertitude associée à cette valeur. Et donc il s'est formé sous la forme d'un ce qu'on appelle un plasma, c'est-à-dire un gaz ionisé, très chaud, très dense, et qui est rentré en expansion du fait d'une sorte d'explosion initiale, d'où le nom de Big Bang, même si le nom n'est pas toujours très approprié, mais en tout cas, un moment initial à partir duquel l'univers est rentré en expansion. Et dans son expansion, eh bien, il était à une température très élevée au début, il est devenu moins dense, moins chaud, et au cours de ce refroidissement, il y a eu des tas de phénomènes successifs qui sont arrivés et qui correspondent aux grandes étapes de cette histoire de l'univers. Donc un des premiers phénomènes, disons, c'est la formation des premières particules, puis la formation des premiers noyaux atomiques. Ensuite, ces noyaux atomiques ont capturé les électrons qui étaient aux alentours pour former les premiers atomes. Et puis ces atomes ont commencé à s'agglomérer les uns aux autres par attraction gravitationnelle, dans les endroits où il y en avait un peu plus, un peu moins, simplement par les hasards de la distribution aléatoire de la matière primordiale. Et puis ces agglomérats de matière ont fini par former les premières structures, les premiers amas de galaxies, les galaxies qui se sont formées comme ça, dans lesquelles les premières étoiles se sont allumées. Puis autour de ces étoiles se sont agglomérés d'autres morceaux de matière pour former des planètes, etc., etc. Et nous voilà. Ça a pris environ 13,5 milliards d'années.
On en a perdu.
On en a perdu. Encore 100 millions. Encore 100 millions, ouais, ouais, effectivement.
Le premier scientifique à poser l'idée de l'expansion, c'est Hubble.
Historiquement, c'est Hubble qui a fait la première publication dans laquelle il montrait qu'il y avait clairement une expansion. Maintenant, on sait que les mesures de Hubble étaient basées sur des mesures qui avaient été faites auparavant par un autre qui s'appelait Vestoslipher. Et puis, il y a aussi l'abbé Lemaître, belge, qui avait utilisé des données publiées par Slipher, si je ne m'abuse, qui avait aussi vu qu'il y avait expansion de l'univers. Tout ça à peu près à la même époque, de sorte qu'aujourd'hui, on parle de la loi de Hubble-Lemaître, qui décrit l'expansion de notre univers et le fait que les galaxies semblent s'éloigner de nous d'autant plus vite qu'elles sont loin.
Fait un petit peu de tourisme en même temps.
Ah oui, avec plaisir.
Et donc là, on va traverser la cour du château des Ducs de Bretagne.
Un magnifique château.
Avec, vous voyez, Vénus
là. Splendide, il y a Vénus au-dessus, oui, c'est splendide. C'est un vrai plaisir.
Ça tombe bien parce qu'elle n'est pas toujours là.
Ah oui, oui, forcément.
Les premières particules, c'est quasiment tout de suite.
Justement, un des grands sujets d'étude de la cosmologie aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle l'univers primordial. Et qu'est-ce qui a vraiment généré les premières particules? C'est ce qu'on appelle la phase de l'inflation, qui est précisément l'objet principal de mes recherches. Et ça se passe dans les toutes premières fractions de secondes après ce qu'on appelle l'instant zéro.
J'ai lu que la première particule, c'était le quark.
Alors, on ne peut pas vraiment en être sûr, mais aujourd'hui, ça c'est plutôt de la physique des particules que de la cosmologie, aujourd'hui, on arrive dans les accélérateurs de particules à briser la matière dans ces éléments les plus petits. Et on pense que, par exemple, les protons et les neutrons sont formés de plusieurs quarks, qui sont donc les constituants les plus élémentaires de la matière. Aujourd'hui, on n'a pas détecté de sous-structure aux quarks. Donc on pense que les particules donc les plus petites sont les quarks. Donc ce seraient celles qui se sont formées les premières au cours de l'histoire de l'univers. Mais en fait, la formation de ces quarks proviendrait plutôt de justement un phénomène qui aurait eu lieu à la fin de cette phase d'inflation. Pendant cette fin de l'inflation, les quarks se seraient créés pour former la matière. Donc il y avait quelque chose avant la matière, si vous voulez. Cette phase d'inflation qui serait causée par quelque chose qui n'est pas vraiment de la matière au sens habituel du terme, mais ce qu'on appelle plutôt un champ en physique des particules.
Donc le quark, quelques secondes après l'électron.
En fait, l'électron en même temps. Les électrons sont aussi des particules élémentaires, donc ils ont été créés au même moment que les quarks. Mais les quarks se sont agglomérés ensemble pour former les premiers protons et les premiers neutrons, un tout petit peu plus tard.
Ouais, voilà. Donc ça, c'est les premières secondes.
Voilà, les premières secondes, exactement. Et au bout de quelques minutes, les premiers atomes, enfin les premiers noyaux, pardon, puisque les électrons n'étaient pas encore accrochés à ces atomes, donc on parle uniquement des noyaux. Et puis pour que les électrons viennent se faire accrocher sur les noyaux, autour des noyaux, là, il faut attendre près de 400 000 ans. Et c'est à ce moment-là que l'univers devient neutre, puisqu'avant, on avait les noyaux chargés positivement d'un côté, les électrons chargés négativement de l'autre, qui flottaient joyeusement ensemble, mais sans être accrochés. Et puis d'un coup, au bout de 400 000 ans, l'univers est suffisamment froid pour que les électrons soient capturés par les noyaux. Et là, c'est un événement absolument fantastique de l'histoire de l'univers, puisque l'univers devient neutre brusquement, les premiers atomes sont formés, et la lumière qui n'arrêtait pas d'interagir avec les noyaux et les électrons avant, se met à être libéré et à parcourir librement l'univers. Donc c'est un petit peu la première lumière dans l'histoire de l'univers, 400 000 ans. Et cette lumière, on la capture aujourd'hui avec nos télescopes. On l'appelle le fond diffus cosmologique et elle fait l'objet d'énormément d'études en cosmologie.
Vous avez dit au tout début, quand vous avez donc présenté l'histoire de l'univers, qu'il y avait une part de hasard dans cet assemblage.
Oui, tout à fait. En fait, au moment de la fin de l'inflation, l'univers est rempli d'inhomogénéité. C'est-à-dire il n'a pas partout la même densité. Il y a des fluctuations de densité qui sont complètement aléatoires et qui proviennent, en fait, d'après ce modèle de l'inflation, qui reste encore à valider par les observations. Et d'après ce modèle, ces fluctuations de densité qui sont installées à la fin de l'inflation proviennent en fait de ce qu'on appelle les fluctuations quantiques de ce champ qui serait responsable de l'inflation. Donc on pense que cette distribution de matière est complètement aléatoire à la fin de l'inflation et c'est justement ce qui fait qu'il va y avoir de la matière ici, des accumulations à cet endroit-là et pas ailleurs. Alors cette distribution complètement aléatoire va évoluer gravitationnellement pendant plusieurs milliards d'années pour former les structures qu'on observe autour de nous et qui se présente sous la forme de super amas de galaxies, d'amas de galaxies, etc. Mais initialement, c'était une distribution vraiment aléatoire, et la gravitation a structuré cette distribution aléatoire sous la forme qu'on observe aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on arrive d'ailleurs très bien à simuler avec des simulations numériques. On reproduit très bien les observations.
Ça suggère que notre univers aurait pu être autrement distribué.
L'univers aurait pu être distribué différemment, mais il suffit de regarder un autre endroit de l'univers. L'univers, c'est vraiment très très grand. Donc si on regarde un autre endroit de l'univers, on va pouvoir voir une distribution qui est statistiquement similaire à celle qu'on observe autour de nous, mais une sorte de réalisation différente de cet aléatoire. Donc quand on regarde différentes zones de l'univers, on va voir différentes réalisations de cette distribution aléatoire. Donc il y a de l'aléatoire qui indéniablement rentre en ligne de compte ici, mais la structuration de la matière, l'effet de la gravitation font qu'à la fin, les choses sont de toute manière à peu près semblables à ce qu'on observe, quelles que soient les simulations qu'on fasse, si vous voulez. Donc cet aléatoire va simplement faire un petit peu varier le visage local de l'univers, mais globalement, c'est toujours à peu près les mêmes traits.
Je faisais une extension en fonction des conditions différentes et des rencontres possibles. Peut-être que la matière elle-même aurait pu être autre que celle qu'on observe. Et donc l'univers tel qu'on le connaît aurait pu ne pas être celui-là. C'est le fond diffus de ma pensée.
D'accord, oui, je vois. Alors en fait, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est vrai, dans le sens où ce qui va faire que l'univers va évoluer de la manière dont je viens de le dire, c'est essentiellement les valeurs des constantes universelles dans notre univers. La vitesse de la lumière, la constante de la gravitation, la masse de l'électron, etc. Tous ces paramètres qui sont des constantes universelles, qu'on prend comme elles sont. Si ces constantes étaient différentes, légèrement différentes, alors l'univers serait radicalement différent. C'est vraiment la valeur de ces quelques constantes, il y en a peut-être une dizaine ou une quinzaine, c'est vraiment la valeur de ces constantes qui va structurer la forme sous laquelle on va voir l'univers. Donc on pourrait tout à fait imaginer, et c'est des modèles qui sont considérés avec beaucoup de sérieux, que notre univers est en fait une zone dans laquelle les constantes ont pris telle valeur. Mais dans d'autres zones d'un univers beaucoup plus vaste, ces constantes-là auraient pu prendre d'autres valeurs, et à ce moment-là, on serait en présence de zones de l'univers qui seraient radicalement différentes de la nôtre. On pourrait même imaginer que certaines zones de l'univers n'aient pas le même nombre de dimensions spatiales et temporelles que nous, et donc des zones extrêmement étranges. Probablement que la plupart de ces zones-là auraient beaucoup de difficultés à abriter des structures telles que celles qu'on les observe, mais peut-être d'autres pourraient en abriter des différentes, et donc ça ouvre le domaine des possibles de manière quasiment infinie.
Vous avez des kiwis, mais qu'est-ce que vous allez faire de vos kiwis ?
Ah bah, j'ai des arbres fruitiers, le kiwi arbre fruitier, bah, je vais les laisser pousser et puis je vais attendre qu'il y ait des fruits dessus pour les récolter l'année prochaine. Vous feriez quoi avec des arbres, des kiwis, vous ?
Comme vous, j'attends.
Bah voilà, bon, la nature. Bon, ceci dit, on pourra bientôt avoir des kiwis en Mars.
Sur Mars.
Aussi.
Je suis donc avec Jean-Christophe Hamilton, l'invité de la Société d'Astronomie de Nantes pour une conférence sur le fond diffus cosmologique. Je ne sais pas si ça vous parle.
Très peu.
Mais un petit peu quand même.
Un petit peu, on va dire oui. Bah, oui et non. J'ai une vague approche, mais plutôt je connais un petit peu d'astrophysique ou autre, mais je ne sais pas si c'est vraiment en lien.
Ah bah c'est complètement en lien.
C'est forcément en lien.
Étienne Klein, par exemple,
Étienne Klein, un petit peu. Absolument.
Voilà.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire ou l'origine de l'univers ?
Bah, je vais avoir du mal parce qu'on m'a parlé de plein de thèses différentes, toutes les plus farfelues les unes que les autres. Est-ce qu'il a déjà été créé, l'univers ? Je peux pas répondre à votre question, c'est trop complexe. J'ai l'image du Big Bang parce que c'est celui qu'on nous a appris à l'école, j'imagine. On reste dans cette idée-là. Maintenant, je pense que l'origine de l'univers peut être... Il peut y avoir des origines les plus farfelues possibles.
L'origine de l'univers, donc pas que de la Terre, quoi. Bah, la Terre était présente, mais il y a des milliards d'années, j'imagine. Moi, je serais plus darwiniste. Je pense qu'il y a une évolution qui s'est faite au cours des siècles et que l'homme est arrivé sur Terre par progression, évolution, oui. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire.
Vous avez eu le temps de réfléchir.
Oui, le début c'est la fin pour moi. Enfin, je sais pas, il y a la destruction engendre la création d'autres choses et peut-être que je sais pas, l'évolution amène à la fin qui va créer le début. Et...
ou une vie extraterrestre qui est arrivée sur Terre, et puis, ou des microparticules, ou tu vois, un truc qui s'est créé comme ça, avec, je sais pas, il y a les ions, il y a plein d'énergie là-dedans, alors est-ce qu'il n'y a pas un truc qui peut se télétransporter?
C'est pas diffus, c'est confus.
Non, mais il y a des tas de choses intéressantes dans ça.
Oui, il y a une comparaison avec donc, l'évolution du vivant.
Voilà, c'est ça. Une évolution.
Il y a une idée de cycle, là.
Tout à fait.
Ouais. Et puis là, il y a une idée de fantaisie.
Ouais. Ouais, ouais.
Comment on s'en sort, là?
Tout ça est présent dans l'histoire du Big Bang. Hein. Le Big Bang, comme je disais tout à l'heure, a effectivement une histoire et a évolué, comme vous avez fait allusion, a évolué de manière assez complexe au cours des 13,5 milliards d'années depuis sa création. Et puis il y a des théories selon lesquelles l'univers serait effectivement cyclique, c'est-à-dire que la phase d'expansion serait suivie par une phase de contraction, et à la fin de cette phase de contraction, tout recommencerait à zéro, et puis on pourrait avoir des univers cycliques comme ça, ce qui permettrait de répondre à beaucoup de questions. Donc ça, c'est des théories qui sont tout à fait discutées aujourd'hui. Et puis il y a effectivement énormément de théories très farfelues, plus farfelues les unes que les autres, et qui excitent beaucoup les scientifiques. À vrai dire, plus c'est farfelu, plus ça nous excite, parce qu'on aime bien quand même les théories farfelues.
Si vous avez une question ou deux à poser, profitez-en.
Actuellement, vous travaillez du coup sur quoi ?
Je travaille sur l'observation d'un rayonnement qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui est un rayonnement qui a été émis quand l'univers était très jeune, 400 000 ans après sa naissance, alors qu'aujourd'hui l'univers a 13,5 milliards d'années, donc ça fait vraiment longtemps. Et en observant ce rayonnement, on espère comprendre ce qui s'est passé dans les premières fractions de secondes juste après le Big Bang, l'époque au cours de laquelle la matière aurait été créée et les premières fluctuations de la densité dans l'univers auraient été créées, ce qui a après donné lieu à la formation des galaxies et de toutes les structures qu'on observe. Donc on essaye d'observer ce rayonnement un peu particulier qui pour le moment échappe à notre observation.
Moi je pensais à l'accélérateur de particules de Genève. C'est un peu flippant quand même de jouer avec des choses comme ça. Ça pourrait créer un trou noir et peut-être genre qu'on va engendrer la fin, mais en fait c'est le début et que ça serait qu'un cycle, ou comme une explosion atomique avec tout ce qu'on a sur Terre qui en fait créerait la fin, mais le début et... Enfin après là c'est de la science-fiction, mais...
C'est pas vraiment de la science-fiction dans le sens où si on fait des collisions avec suffisamment d'énergie, on peut potentiellement créer, de manière très rare, des micro-micro-micro-trous noirs. Mais ces micro-trous noirs ne sont pas du tout dangereux parce qu'ils s'évaporent en quelques fractions de fractions de fractions de fractions de secondes. Et donc ça n'a absolument aucun danger en réalité. Le seul danger qui est associé à ces accélérateurs de particules, c'est que les matériaux qui sont utilisés sont radioactifs après. Donc il faut simplement les retraiter, mais ça génère beaucoup moins de déchets qu'une centrale nucléaire. Donc c'est pas si dangereux que ça en fait.
Oui, ça crée une explosion ou... Je sais pas, en plus c'est un tunnel qui est immense, ça pourrait avaler la ville de Genève ou je sais pas, c'est vraiment...
Ceci ne pourrait arriver que si c'était un gros trou noir qui était créé. Avec un petit trou noir, ça ne peut pas arriver. Et les quantités de particules qui sont accélérées sont en fait très faibles et bien insuffisantes pour faire un trou noir de cette taille-là. Donc, mais vraiment de très 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 loin. Donc il n'y a en fait vraiment aucun danger en réalité. Même si ça paraît effectivement impressionnant parce que les énergies en question sont gigantesques. Mais c'est finalement très peu de matière.
Votre dernière découverte concrète, est-ce que vous en avez une ou c'est assez concret pour l'exposer ou pas ?
Personnellement, je ne peux pas prétendre avoir fait beaucoup de découvertes concrètes jusqu'à présent. Je m'y emploie quotidiennement. Mais il y a eu des découvertes assez importantes dans le domaine de la cosmologie au cours des dernières décennies. En tout cas, il n'y a pas des découvertes tous les jours. Mais par exemple, on a découvert récemment que il y a quand même une vingtaine d'années, on a découvert que, contrairement à ce qu'on pensait, l'univers n'était pas en train de... Donc l'univers est en expansion, mais on pensait que son expansion était en train de se ralentir sous l'effet de la masse de toute la matière contenue dans l'univers. Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette expansion était accélérée. Et on a beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que l'origine de cette accélération. Donc ça fait partie des grandes questions qu'on se pose en cosmologie. Mais on a découvert cette expansion accélérée. Alors plus récemment, il y a eu encore une autre découverte intéressante, qui est la découverte des ondes gravitationnelles, qui avaient été prédites depuis pas mal d'années, pas mal de décennies. Et pour la première fois, elles ont été observées il y a environ 3-4 ans par des détecteurs américains et européens. Donc il y a des découvertes assez régulièrement dans notre domaine. Bon, moi je ne peux pas prétendre en avoir fait personnellement.
Puis le temps qu'on les publie, ça peut prendre...
Ça prend des fois un peu de temps pour les publier, mais enfin, en général, quand c'est une découverte importante, la nouvelle se propage assez rapidement. C'est quelque chose que je trouve fantastique avec la cosmologie et l'astrophysique, c'est qu'en fait, tout le monde connaît quelques bases, tout le monde a quelques éléments. Et ça intéresse en réalité beaucoup, beaucoup de gens. On ne peut pas en dire autant avec d'autres branches de la physique, qui pourtant peuvent être tout aussi intéressantes dans l'absolu, mais l'astrophysique et la cosmologie, ça touche tout le monde, curieusement.
Alors, maintenant, on va parler un petit peu des outils.
Des outils, oui, tout à fait.
Et alors, Cubic, c'est quoi ?
Alors, Cubic, c'est un instrument un peu hybride, dans le sens où pour observer le ciel en astrophysique, les astronomes ont développé deux types d'instruments. Les premiers sont les télescopes, c'est-à-dire en gros un appareil photo avec soit des lentilles, soit des miroirs, et une image qu'on forme sur ce qu'on appelle un plan focal, sur lequel on met des détecteurs. Ça peut être une plaque photo, ça peut être une caméra CCD ou des choses un peu plus compliquées. Mais en gros, c'est toujours le même concept. Il y a un deuxième concept qu'on appelle un interféromètre, qui est un petit peu plus compliqué à décrire, mais qui permet d'observer le ciel d'une manière un petit peu différente et qui a certains avantages par rapport au télescope classique. Et alors Cubic, c'est justement le mélange entre un interféromètre et un télescope. C'est ce qu'on appelle un interféromètre bolométrique. C'est le B et le I de Cubic, pour Bolometric Interferometer. Et en fait, c'est un concept instrumental qu'on a imaginé pour l'occasion. Donc c'est la première fois qu'un interféromètre bolométrique est construit. Et l'intérêt d'avoir combiné ces deux techniques d'observation, c'est d'avoir à la fois la sensibilité qui est offerte par l'imagerie en utilisant comme détecteur ce qu'on appelle des bolomètres, qui sont des détecteurs ultra-sensibles, et la propreté de mesure, la pureté de mesure qu'offre l'interférométrie. Parce qu'on essaye de mesurer un signal qui est à la fois très très faible et très délicat à mesurer parce qu'il peut très facilement se mélanger avec d'autres signaux, il nous faut à la fois une très haute sensibilité et une très grande propreté de mesure. Ce qui est un défi instrumental considérable. Et c'est pour ça que ça nous a amené à développer ce nouveau concept instrumental qui a été construit là pour la première fois ces dernières années et qu'on est en train de tester en ce moment dans mon laboratoire à Paris, avant de l'envoyer pour faire des observations sur les hauts plateaux de l'Argentine.
Donc il n'y a qu'un seul exemplaire ?
Il n'y a qu'un seul exemplaire pour le moment. J'espère bien que si notre premier exemplaire s'avère aussi efficace que ce qu'on a prévu, il y en aura beaucoup après, que ça n'est que le premier d'une lignée.
Et alors, pour nous expliquer un petit peu vos recherches, sans rentrer trop dans les détails, mais on a besoin d'une définition. Qu'est-ce qu'un redshift ?
Alors un redshift, en français, ça veut dire décalage vers le rouge. Ce qui se passe en fait, c'est que exactement comme quand on entend une voiture de police ou de pompier s'approcher de nous, on a l'impression que le deux ton est plus aigu, et quand elle s'éloigne de nous, on a l'impression que le deux ton est plus grave. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Cet effet Doppler, ça change la fréquence d'un signal ondulatoire. Ça peut être avec le son, ou avec la lumière. L'univers est en expansion, comme je le disais tout à l'heure, et donc les galaxies qui sont éloignées de nous s'éloignent de nous, du fait de l'expansion de l'univers, et à cause de cet éloignement, leur lumière est décalée vers le rouge de la même manière que le son du deux tons de la voiture de pompier est décalé vers les sons graves. Et donc, en mesurant ce décalage vers le rouge, on arrive à connaître la distance de cette galaxie et faire des mesures très intéressantes en cosmologie et à comprendre la structure de l'univers, justement.
Et quand vous dites mesurer le décalage, c'est par calcul, parce que visuellement, c'est impossible, non ?
Si, en fait, on peut le mesurer très précisément grâce à ce qu'on appelle les transitions atomiques. C'est-à-dire que quand on observe la lumière d'une galaxie, on va observer cette lumière suivant toutes ses longueurs d'onde. C'est-à-dire qu'on va mesurer ce qu'on appelle le spectre lumineux de cet objet. Un petit peu comme quand la lumière passe à travers un prisme, on voit un arc-en-ciel, ou quand la lumière passe à travers les gouttes de pluie, on voit toutes les couleurs qui forment la lumière blanche. Mais on va faire exactement la même chose avec notre galaxie à travers notre télescope. On appelle ce genre de télescope un spectromètre. Et grâce à ce spectromètre, on va donc voir toutes les longueurs d'onde qui constituent la lumière de cette galaxie. Et certaines longueurs d'onde vont manquer. Il va y avoir des creux à certaines longueurs d'onde. C'est ce qu'on appelle les raies d'absorption, et elles correspondent aux éléments chimiques qui sont contenus dans la galaxie, tous les atomes qui vont constituer tous les objets qui sont à l'intérieur de cette galaxie. Et comme on connaît au laboratoire quelle est la longueur d'onde à laquelle ces transitions doivent se trouver, on compare les mesures faites au laboratoire ici, au repos, avec les mesures faites sur une galaxie qui est en train de s'éloigner, et on parvient à mesurer le décalage vers le rouge de ces raies, et comme ça de mesurer le redshift de cette galaxie. C'est aussi simple que ça, et c'est ce que Hubble, dont on parlait tout à l'heure, a fait pour la première fois en 1929.
Quelle est la cadence de ces mesures ?
Ça va vraiment dépendre du spectromètre que vous utilisez, mais par exemple, moi j'ai eu le plaisir de travailler dans une collaboration américaine qui s'appelle SDSS, Sloan Digital Sky Survey, et avec l'instrument, le télescope qu'utilisait SDSS, on était capable de mesurer environ, j'essaie de me souvenir, plusieurs milliers de spectres de galaxies par nuit. Pratiquement, je dirais, entre 5 et 6 000 spectres de galaxies chaque nuit, grâce à des techniques très astucieuses, développées par des ingénieurs très malins, qui nous permettent d'accélérer la cadence de ces observations.
Pour comprendre le mécanisme ou la loi qui sous-tend tout ça, qui régit tout ça, c'est une question de multiplication ou de multiplicité de mesures, ou il faut être là au bon moment ?
Non, en fait, il s'agit de choisir quel objet vous allez observer, de quels objets vous voulez avoir le décalage vers le rouge. Et par exemple, avec BOSS, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on fait des observations à l'avance qui nous permettent de déterminer la position de tous les objets, de sélectionner parmi tous les objets qu'on a vus ceux dont on souhaite avoir le spectre. Ensuite, on fait fabriquer des sortes de grandes plaques métalliques dans lesquelles on fait des trous aux endroits où les objets qui nous intéressent sont. Et on va installer une petite fibre optique derrière chacun de ces trous pour pouvoir amener la lumière de cette galaxie jusqu'à un spectrographe qui va permettre de développer cette lumière suivant toutes ses longueurs d'onde. Et comme ça, on arrive à avoir pratiquement un millier de trous sur une plaque et faire 1000 objets simultanément, et ce, entre 5 et 6 fois par nuit.
Là, on reste dans le domaine de l'observation.
Oui.
Qu'est-ce que vous cherchez ? C'est simplement pour valider une théorie ?
Alors, on a des théories assez fermement établies qui sous-tendent ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie aujourd'hui. Donc c'est la théorie de la relativité générale qui parle de gravitation, et puis la mécanique quantique qui nous parle des interactions élémentaires. Et à partir de là, on a forgé ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie en faisant des hypothèses qui nous permettent de faire des calculs avec ces deux théories. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'une part vérifier si ce modèle standard est pertinent, si les observations sont en accord avec lui, si les prédictions qu'on peut faire avec, dans le cadre de ce modèle standard sont effectivement réalisées. Et il y a eu au cours des dernières années plusieurs prédictions qui n'étaient pas du tout évidentes, qui ont été observées des années après la prédiction. Donc ça a permis de confirmer ce modèle de manière très forte.
Ça se dit rapidement, prédiction qui n'était pas évidente.
Par exemple, ce qu'on appelle les oscillations acoustiques de baryons. Donc ça, c'est une phase de l'univers juste avant l'émission du fond diffus cosmologique, où la matière a oscillé, il y avait des sortes d'ondes acoustiques qui se propageaient à l'intérieur de l'univers. Et la présence de ces ondes acoustiques a généré une distribution de la matière dans l'univers qui doit avoir certaines propriétés statistiques. C'est-à-dire qu'en gros, quand on observe une galaxie, il doit y avoir un peu plus de galaxies à 150 mégaparsecs. Mégaparsec, c'est une unité de distance. C'est 1 million de parsecs. Un parsec, c'est 3 et quelques années-lumière. Donc il doit y avoir un peu plus de voisins de chaque galaxie à 150 mégaparsecs qu'à 140 ou qu'à 160. Et c'est juste un tout petit excès qui était très très difficile à mesurer, qui était prédit par la théorie et qui a été mesuré avec beaucoup de succès en 2005. Et qui maintenant fait l'objet de mesures continuelles, parce que l'observation de cette caractéristique de la distribution de matière permet de mesurer des tas d'autres choses. Donc ça, c'était une de ces prédictions qui était très intéressante à vérifier, puisque ça nous permet de contrôler à quel point le modèle qu'on utilise est pertinent et à quel point il représente vraiment la réalité, parce qu'on a fait des hypothèses simplificatrices pour pouvoir faire des calculs dans ce modèle. Donc on veut constamment le vérifier. Donc ça, c'est une partie des motivations. Donc ça va être vérifier la pertinence du modèle, mesurer les paramètres du modèle, comme la densité moyenne de l'univers, la recette de l'univers, quelles sont les différentes composantes de l'univers, etc. Mais il y a aussi constamment un souhait, une recherche d'événements qui ne collent pas avec le modèle. Parce que les physiciens, en général, passent beaucoup de temps à vérifier les modèles, mais ce qui les excite vraiment, c'est de les contredire. Parce que là, ça devient vraiment intéressant, parce qu'on est obligé de faire appel à de la physique un peu nouvelle, et ça fait vraiment avancer la science quand on commence à trouver un truc bizarre. Donc on espère tous un jour trouver quelque chose de bizarre dans nos observations. Même si ça arrive rarement.
Merci à Jean-Christophe Hamilton, directeur de recherche CNRS au laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université de Paris. Et merci à
Othello,
Mélissa
et Nathan
pour leur libre participation à ce programme réalisé avec le concours de la Société d'Astronomie de Nantes.
Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant dans la rue ?
Ah bah c'était très agréable. En fait, flâner, marcher, c'est le meilleur moyen de réfléchir, je crois. Et donc, c'était sans doute la meilleure interview que j'ai eu la chance d'avoir, parce que c'était justement beaucoup plus agréable, avec des tas de choses qui se passaient autour, et qui, en fait, donnent l'occasion de réfléchir différemment, peut-être de manière un peu plus intéressante, je dirais. C'était une expérience très agréable.